Et par actualité. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2017 et c'est l'émission Les Paractualités avec aujourd'hui en titre l'autisme, plus de bureaucratie n'est pas la solution. Ce n'est pas un article mais une opinion que je voudrais vous lire. Il y aura également comme sujet qui seront traités l'objectif dépassé pour le 20e téléradioton de la ressource, débrayage à la STO, ça ne touchera pas le transport adapté et 10 rappels fiscaux pour les personnes âgées. En ce qui concerne les entrevues, je vais m'entretenir dans quelques minutes avec Linda Gauthier du Rapplic au sujet du recours collectif fait contre la STM et nous allons également nous entretenir avec Jérôme Bobin de Handicap International. Alors, ceci est une opinion que j'ai pensé intéressant de vous lire au sujet de l'autisme. C'est sorti dans Le Devoir. Il est possible d'ailleurs que ma camarade Hélène vous ait déjà lu cette opinion, mais je pense que deux fois valent mieux qu'une. En tant que père d'un enfant ayant reçu un diagnostic d'autisme il y a plus de 10 ans, j'ai suivi les débats sur les politiques fédérales et provinciales en matière d'autisme avec un intérêt majeur, mais une désillusion plus grande encore, écrit M. Andrew Kafchak. Je croyais que l'un des aspects qui faisait du Canada un grand pays était son système de santé publique. Mais le diagnostic que mon fils a reçu m'a ouvert les yeux sur la discrimination dans le système d'assurance maladie. Il n'y a pas de remède contre l'autisme. Mais nous disposons depuis des décennies d'un solide ensemble de données scientifiques vérifiées par des pairs qui prouvent que la thérapie par intervention comportementale intensive, autrement dit l'ICI, fondée sur les principes de l'analyse comportementale appliquée, autrement dit l'ACA, peut avoir une incidence considérable sur le développement des enfants atteints d'autisme. Malheureusement, le traitement n'est pas couvert par l'assurance maladie partout au pays. Dans la plupart des provinces, l'ICI, ACA, n'est pas offert par le ministère de la Santé aux personnes qui en ont besoin au moment où elles en ont besoin et pendant toute la période où elles en ont besoin. Lorsqu'ils sont disponibles, les programmes sont généralement offerts par le ministère responsable des services sociaux plutôt que par celui de la Santé et leur portée est extrêmement limitée. De plus, ils sont minés par des listes d'attente excessivement longues qui s'étalent souvent sur des années. Ma famille, dit ce monsieur, a dépensé plus de 40 000 $ pour obtenir cette thérapie dans le secteur privé au cours de la première année après le diagnostic, en attendant un traitement offert par le gouvernement. Cette situation était intenable pour nous, comme elle l'est pour la majorité des familles canadiennes. En novembre, un groupe d'experts sur l'autisme créé par le précédent gouvernement fédéral a remis son rapport à la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott. Un plan d'affaires proposant un projet de partenariat canadien pour l'autisme, un PCA, accompagné d'une demande de soutien totalisant 19 000 000 $ sur 5 ans, a été présenté. Malheureusement, le PCA est loin d'offrir aux familles canadiennes aux prises avec l'autisme quelques soulagements. Le PCA offre une vue d'ensemble de la structure proposée. Conseil d'administration, directeur national, 11 employés, conseil consultatif, et décrit une mission. Résoudre les enjeux relatifs à l'autisme à l'aide d'une approche axée sur le partage du leadership et un processus, des consultations, détermination des enjeux, établissement d'un programme, résolution des problèmes, mobilisation, évaluation, mesures, surveillance. Mais ça s'arrête là, poursuit ce papa. En d'autres termes, le PCA prévoit la création d'une autre bureaucratie. Ceux et celles qui participent au groupe de travail et leurs sympathisants peuvent se réjouir à la perspective d'une nouvelle bureaucratie, mais au sein de la communauté de l'autisme, nous sommes nombreux à réagir avec consternation. La dernière chose dont les familles aux prises avec l'autisme ont besoin, c'est bien de plus de bureaucratie. Ce dont nous avons besoin, plutôt de la part du gouvernement fédéral, c'est d'un réel leadership dans le dossier de l'autisme, et ce dès maintenant. Plutôt que d'envisager une nouvelle bureaucratie, la ministre Philpott devrait déterminer comment le gouvernement fédéral peut faire preuve de leadership, exercer une influence et mettre de l'argent sur la table pour négocier un accord avec les provinces afin de régler 3 enjeux récurrents pour les familles aux prises avec l'autisme: le manque de services de santé couverts, l'assurance maladie pour le traitement de l'autisme, donc ICI-ACA, le manque de services d'ICI-ACA dans le système d'éducation et le manque de logements adaptés pour les adultes atteints d'autisme. Il conclut en disant: s'il y a volonté politique, il y a moyen d'agir. Elle est de toutes les batailles, inlassablement, et une chance que nous l'avons. Je veux parler de Linda Gauthier. Linda, bonjour.
Bonjour, Clotilde, comment ça va?
Ça va très, très bien. Ben, ça va mieux qu'hier, hein?
Oui, j'espère.
Ça va mieux qu'hier. Linda, le recours collectif contre la STM,
oui.
Suite. Pouvez-vous nous résumer un petit peu l'historique de ce dossier, s'il
vous
plaît?
Ben oui, en fait, c'est la STM, l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, ainsi que la Ville de Montréal.
Oui.
Alors, ben, c'est parce que LAS, de trop de discrimination vécue avec ces instances-là, finalement, on a décidé de, le RAPLIC a décidé d'intenter un recours collectif contre ces instances-là, je le dis encore, le 15 avril 2015.
Mon Dieu, ça remonte déjà à presque deux ans.
Que ça va relativement, quand même, assez rapidement.
Bon.
Alors là, on attend l'autorisation par la juge, son nom m'échappe, et ça sera le 21, 22 et 23 mars que les audiences pour l'autorisation sur le fond, parce qu'il y a la forme aussi après, mais sur le fond, vont avoir lieu à la Cour supérieure du palais de justice.
Alors, sur le fond, ça veut dire sur quoi?
Sur le fond, ça veut dire que c'est moi qui se trouve être la personne désignée
D'accord.
pour représenter au bas mot 20 000 personnes.
Oui.
Alors, on veut établir que je suis la bonne personne et que je ne suis pas... en fait, que je connais l'histoire, je connais un peu la problématique d'un peu tout le monde, finalement, selon le handicap aussi.
Oui, OK. Alors, 20 000 personnes,
oui.
Bon, autrement dit, vous représentez toutes celles, hein, j'ai la liste sous les yeux, parce que vous nous avez fait parvenir un mot, justement, et ça, on va en parler par la suite, parce que vous voulez qu'il y ait du monde,
oui.
Mais évidemment, vous représentez tous les gens qui sont en fauteuil roulant, qu'ils soient manuels ou motorisés, qu'ils soient en triporteur, en marchette, en déambulateur, bref, tous les gens hein, qui ont une difficulté à se déplacer, c'est bien ça.
Exactement. Et surtout, OK, qui ne peuvent pas avoir accès, s'il n'y a pas d'ascenseur, au métro.
C'est ça, parce que les revendications en tant que telles, ce sont lesquelles? Donc, l'accès à des, au métro, l'accès à des bus un peu plus fréquemment, adaptés.
Oui, mais des bus, en fait, non. Ils sont pas mal tous accessibles.
Ah, mais
OK. Que ça touche également la MT, qui, pour la majorité de ces lignes de train de banlieue, ne sont pas accessibles, ni les gares. Il n'y a que le train de Mascouche qui l'est.
Oui, parce que là, je lisais qu'il y a, il y a une nouvelle gare qui vient d'ouvrir près de la salle, là.
Oui, mais oui.
Et elle n'est pas accessible.
Absolument pas.
Sur la ligne de Candiac.
C'est ça. Ouais. On nous a répondu que ça ne vaut pas la peine parce que sur cette ligne-là, il n'y en a pas qui sont accessibles. Il faut commencer en quelque part, n'est-ce pas? En tout cas, bref. C'est pour ça que c'est ces personnes-là seulement qui sont visées pour commencer, j'entends. Parce que ça peut arriver que le recours collectif aille plus loin après.
Bon, j'imagine que vous n'y êtes pas toute seule. On est bien représentés. Il y a des avocats sur le coup?
Il y en a trois.
Bon. Et puis trois personnes en qui vous avez confiance?
Absolument.
Des gens réputés, des gens...
Tout à fait. Deux vieux loups aguerris en recours collectif, là, maître Gilles Garot, maître Alain Arsenault et en droit de la personne, maître Aymar Misakila.
Bon, et puis, vous avez donc besoin de nous, de tout le monde.
Mais oui, tout à fait.
Alors, dites-nous pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, écoutez, nous, on a besoin de gens qui sont, en fait, visés par le profil que vous avez donné tantôt,
oui.
là, et qui pourraient assister à ces audiences-là, pour la simple et bonne raison qu'ils vont avoir droit, évidemment, à s'inscrire au recours collectif. Et ben, ça va faire en sorte que les avocats des parties mises en cause, ainsi que la juge, vont voir que je ne suis pas la seule et que je représente d'autres gens, 20 000 personnes étant impossible à entrer dans une salle d'audience, bien sûr.
Mais j'imagine que vous avez pris contact, Linda, avec des organismes qui sont prêts, justement, à se déplacer. Enfin, tout le monde.
Oui.
Et il doit y avoir beaucoup de monde pour vous soutenir, là. Je ne peux pas croire.
Ben oui, là, on a commencé doucement. Évidemment, on ne va pas accepter tout le monde qui va vouloir venir. Mais les premiers qui vont nous contacter, on va tenter de répartir ça sur les trois jours.
Mais en même temps, vous ne pensez pas que ce serait assez formidable qu'on puisse refuser du monde?
Oui, tout à fait. Puis moi, je me dis, ben, c'est parce que, étant donné que les salles d'audience, c'est des bancs qui sont fixes et qui sont pas, les
Oui.
salles ne sont pas adaptées pour les personnes en situation de handicap, ben, ça
Hmm.
serait une première, justement. Il faudrait peut-être penser à adapter ça.
T'sais, genre être obligé de laisser les portes ouvertes pour que les personnes qui sont à mobilité réduite puissent entendre?
J'ose même pas y rêver, ça
Non, moi
serait.
non plus, mais enfin, mais c'est parce que c'est fou, encore une fois, hein, et j'y suis d'autant plus sensible. Et pardonnez-moi, Linda, si je vous avoue que peut-être que je l'étais un petit peu moins avant, mais depuis que j'anime cette émission-là, enfin, on n'a tellement pas conscience, mais tellement pas conscience de cette espèce d'injustice et d'hypocrisie, là,
Tout à fait. Ben oui,
hein.
ben on dit en fait, ils sont en fauteuil ou bon, c'est pas de notre faute. Non, 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 c'est pas comme ça.
Non, c'est ça.
C'est le système qui nous handicape,
Mais oui,
Mathilde.
exactement, exactement. C'est le
Oui.
système, c'est pas le fauteuil. Tout à
Voilà.
fait.
Tout à fait.
Je comprends bien. Et ici, on essaie de faire passer le
Oui.
message, Linda. On
Oui.
fait tout ce qu'on peut. Alors, où est-ce qu'on peut, comment on fait pour vous contacter? On contacte directement le Rapplic
Le
si on est
rappeler,
intéressé?
effectivement, le rappeler au le.rapplic@commercialgmail.com,
Oui.
sinon au 514-656-1664.
D'accord. Ben écoutez, j'ai hâte qu'on vous entende après, parce
Ah, oh, moi
que
aussi, j'ai hâte de vous le dire.
j'ai hâte que vous nous racontiez comment ça s'est passé. Puis à mon avis, là, vraiment, refuser personne. Non.
Non,
Moi,
absolument
je
pas, vous
trouve
avez
qu'il
tout à fait.
faut comme créer un buzz, comme diraient les Français.
Oui.
Hein? On va créer le buzz.
Oui, tout à fait, ma
Allez.
chère Clotilde.
Et chère Linda, je vous souhaite une belle fin de journée. Et encore une fois, je vous remercie d'être là, parce
C'est moi qui vous remercie,
une chance
Clotilde.
que la communauté vous a. Allez,
Oh, ça va. Merci.
bonne journée, salut,
Au revoir.
bye-bye. Par actualité régionale, mission accomplie pour le 20e Téléradioton de la ressource tenue en fin de semaine. L'objectif de 300 000 $ a même été légèrement dépassé avec 300 920 $. Le secteur Gaspésie-Nord a contribué pour près de 26 800 $ et la baie des Chaleurs pour un peu plus de 46 000. Le secteur Rimouski-Montjoly-la-Vallée et Matane a recueilli 135 000 et le KRTB près de 17 000. Alors cet argent permettra de financer les activités de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine pour l'année en cours. Il s'agit de sa principale source de revenus. Et puis, il faut savoir que plusieurs artistes ont participé au spectacle samedi et diffusé dimanche, notamment Marie-Pierre Arthur et Yann Perrault. Débrayage à la STO. Les chauffeurs d'autobus et les employés d'entretien de la société de transport de l'Outaouais pourraient débrayer. À compter de 16 heures ce vendredi, le transporteur public a confirmé mardi après-midi avoir reçu un préavis de grève de 72 heures du syndicat uni du transport. Or, ce qu'on nous dit là, et c'est pour ça que je voulais vous le faire savoir, c'est qu'il faut rappeler que le service de transport adapté ne sera pas touché par ce préavis de grève et donc par cette grève s'il y a lieu. Également, dans le domaine régional, les cégeps demandent un financement adéquat pour pouvoir mener tous les étudiants à la réussite. À l'occasion des consultations prébudgétaires tenues par le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Letao, auquel elle a pris part, la Fédération des cégeps a rappelé l'importance du rôle des 48 établissements de son réseau, non seulement dans la formation de jeunes et d'adultes évoluant au sein d'une société du savoir, mais aussi en matière de contribution au développement du Québec dans une économie du 21e siècle. Pour permettre à tous les cégeps d'être en mesure d'assurer, dans un tel contexte, la réussite d'étudiants dont les profils et les besoins sont de plus en plus diversifiés, la Fédération a insisté sur la nécessité d'accorder à tous les cégeps un financement adéquat et stable à la hauteur des attentes des personnes, des communautés et des entreprises qui comptent sur ces établissements pour bâtir leur avenir. En tenant compte de l'ensemble des défis à relever, la Fédération estime que les besoins financiers des cégeps se chiffrent à 185 millions. Un réinvestissement gouvernemental de cette hauteur permettra notamment aux cégeps d'offrir aux étudiants des services pour améliorer leur réussite, des centres d'aide à l'apprentissage, des services d'accompagnement pour les étudiants autochtones, des services pour les étudiants ayant des besoins particuliers, des services de bibliothèque, des activités sportives et culturelles, par exemple, et de soutenir la réussite des étudiants en situation de handicap, dont le nombre est passé de 5 000 à plus de 12 000 entre 2010 et 2014. Nous avons l'habitude aussi de nous entretenir avec lui parce qu'il a toujours de bonnes choses à nous apprendre, de bonnes ou de moins bonnes. Jérôme Bobin, directeur de Handicap International. Bonjour Jérôme.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, mieux qu'hier.
Mieux qu'hier.
Le temps est plus clément.
Dites-moi Jérôme, le 1er décembre dernier, le Canada a annoncé vouloir faire un pas de plus pour renforcer l'impact de la Convention sur les droits des personnes handicapées. Alors vous, qui avez ce regard tourné vers le reste du monde, puisque vous êtes en première ligne chez Handicap International, vous analysez comment cette déclaration?
Déjà, il faut rappeler que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'année passée, on a fêté ses 10 ans. Elle a été créée en 2006. Le Canada l'a rejointe en 2010. Et là, ce que le Canada a annoncé au début du mois de décembre, c'est finalement commencer les consultations pour adhérer au protocole facultatif. Donc, on est un peu dans l'administratif, mais ce protocole facultatif, il est très important parce qu'en fait, il va donner la capacité aux personnes en situation de handicap canadiennes ou aux groupes de personnes en situation de handicap de réclamer auprès d'un comité indépendant, un comité qui fait partie des Nations Unies, de réclamer la bonne mise en œuvre de la Convention ici au Canada. Alors, tout à l'heure, Linda parlait de recours collectifs et de choses comme ça. On est dans cet état d'esprit-là, donc de donner la possibilité à la société civile canadienne en situation de handicap de mettre le Canada devant ses obligations et de l'inviter à respecter tout ce qui fait la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans toutes ses composantes. Donc pour nous, on voit ça dans plusieurs pays à travers la planète, mais tous n'ont pas rejoint le protocole. Il n'y a que la moitié des pays du monde qui ont rejoint
le
protocole.
Oui, on en avait parlé la fois dernière, oui.
Oui, c'est vraiment une démarche volontaire qui va mettre un peu le Canada devant ses obligations. Et puis je pense qu'on le voit bien depuis plusieurs mois quand même qu'il y a ces questions autour du handicap et de l'inclusion sont de plus en plus vives, de plus en plus animées en tous les cas au niveau politique. Et moi j'étais justement vendredi dernier encore à une table ronde organisée par le ministère des Affaires étrangères sur cette question-là.
Oui. Et alors, oui, pardon, excusez-moi, est-ce que je vous ai interrompu?
Non, je vous en prie.
Les objectifs... j'aimerais bien que vous nous en parliez et en quoi ils vont pouvoir spécifiquement accompagner les personnes en situation de handicap.
Oui, alors on a plein d'outils à l'échelle internationale pour aider et accompagner les personnes en situation de handicap. Il y a la Convention, on vient d'en parler. Puis il y a aussi les objectifs du développement durable. Les objectifs du développement durable, c'est des engagements que les États prennent tous les 15 ans, en fait, pour faire en sorte que la planète soit tout bonnement un endroit plus agréable à vivre pour tout le monde. Mmh. Et le « pour tout le monde » est très important dans ces nouveaux objectifs de développement durable, donc qui vont courir de 2015 à 2030, parce que c'est la première fois dans ces objectifs que les personnes en situation de handicap sont identifiées, et identifiées plusieurs fois dans plusieurs de ces objectifs. On va parler de l'éducation des enfants en situation de handicap. On va parler d'un travail décent et d'une croissance économique pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, la réduction des inégalités, très important et très réel quand on est une personne handicapée. Et puis aussi des villes et des communautés qui soient durables. Et donc durable, ça veut dire où tout le monde participe au développement et à la vie de ces villes et de ces communautés, y compris les personnes en situation de handicap, bien sûr. Avec, si je peux me permettre, un point très important dans le domaine du handicap, vous le savez très bien sur Canal M, et tous ceux qui nous écoutent le savent bien, c'est la collecte de données. C'est bien beau de dire « rien ne va » ou « les personnes sont mal considérées » ou les personnes sont mal prises en compte », sauf qu'on est tous, autant qu'on est, en manque de données fiables pour savoir de quoi on parle exactement, quels sont les vrais manques à combler. Et donc ça, les données, c'est vraiment très très crucial dans les objectifs de développement durable.
On le sait, en ce moment, autour de la planète, il y a des conflits, il y a ceux dont on parle beaucoup, il y a ceux dont on parle moins, et quand on est handicapé, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que tout ça va changer pour les personnes handicapées?
Oui, alors une fois de plus, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est un outil, les objectifs du développement durable sont un outil, mais on en manque quand même dans certaines
Oui.
situations, et notamment les situations de crise et de
De crise.
catastrophe. À l'instant, vous parliez avec Linda de c'est pas le système qui fait le handicap, c'est le système qui fait
Oui,
le handicap, pardon, c'est pas le
c'est pas
fauteuil.
le fauteuil, non,
Eh
c'est
bien, dans
ça.
les situations de crise, on est exactement dans cet état d'esprit-là. Le système n'est pas fait actuellement. Quand on répond à une crise, que ce soit une guerre ou que ce soit une catastrophe naturelle, le système actuel n'est pas fait pour inclure les personnes en situation de handicap. Tout simplement, il ne sait pas le faire. Le système de réponse d'urgence est fait pour aider le plus grand nombre, pour aider les plus valides, pour aider les plus capables de se déplacer à des points de ravitaillement, à des points de services de santé. Il n'est pas fait pour aller rencontrer, aller trouver les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, là où elles se trouvent, que ce soit sur le lieu de la catastrophe, que ce soit dans un camp de réfugiés, que ce soit dans une
Oui.
ville où elles ont été déplacées.
Oui, j'en ai parlé récemment d'ailleurs avec le cas de la Grèce où les gens qui sont dans les camps en ce moment en transit, c'est terrible pour les personnes handicapées.
Mais oui, parce qu'en plus, la plupart du temps, pour les personnes qui sont en transit ou en déplacement, bah, les services ou les aides à la mobilité qu'ils avaient chez eux n'ont pas suivi.
Non, c'est
Donc, ils
ça.
se retrouvent vraiment dans une situation d'extrême vulnérabilité. Et donc, un autre outil qu'on est plusieurs à l'échelle de la planète à avoir mis en avant à l'occasion d'un sommet humanitaire qui a eu lieu l'année dernière.
Oui.
Donc, plusieurs, c'est des organisations comme CBM, comme Human Rights Watch,
Oui.
comme les femmes réfugiées aussi, comme Handicap International. C'est une charte
Oui.
que l'on propose aux États de signer. Alors, ce n'est pas un traité, ce n'est pas quelque chose comme une loi formelle et très dure, c'est juste un engagement d'accepter, de reconnaître que quand moi, je suis un État, et notamment par exemple le Canada, quand je vais mettre en œuvre des activités de réponse à une catastrophe, je vais m'assurer que les activités ne sont pas discriminantes, donc on ne va pas favoriser plus une catégorie de population par
Qu'une
rapport à
autre.
l'autre, qu'on va faire participer les personnes en situation de handicap à la réponse directement, et puis qu'on va s'assurer que tous les services rendus, distribution alimentaire, services de santé, services d'hygiène, toilettes, soient accessibles, accessibles dans le grand sens du terme de l'accessibilité, c'est-à-dire accessibilité physique, mais aussi accessibilité connaissance
Bien
de
sûr.
l'existence de ces services, adaptation de ces services à la situation de handicap. Vous voyez, c'est large.
Oui,
C'est
c'est très
quelque
large.
chose qu'on vit au quotidien ici au
Bien
Canada,
sûr.
mais imaginez au milieu du désert
Ben
ou
oui.
après un typhon, après un séisme, imaginez bien l'importance de tout cela.
J'ai envie de vous dire ces quelques mots avant juste qu'on se laisse, que Dieu et Trump vous entendent.
Oui, et puis les presque 200 autres chefs d'État, il faut aussi garder en tête que la planète est faite de 200 pays, elle n'est pas faite d'un seul ou d'une
Non.
poignée de pays.
Non,
Et il
c'est clair.
faut croire en la communauté.
Bravo, bravo Jérôme, merci de nous le rappeler. Je vous souhaite
Merci
une
à vous.
excellente fin de journée, puis on se reparle bientôt sur les ondes de Canal M.
Avec plaisir.
À bientôt, au revoir
Au
Jérôme.
revoir.
Alors que la période des impôts arrive à grands pas, l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, rappelle à ses conseillers les 10 crédits et prestations les plus couramment utilisés par les personnes âgées. J'ai eu envie de vous en faire part. Le fractionnement du revenu de pension. En effet, une personne âgée qui reçoit une pension peut attribuer jusqu'à 50% de son revenu de pension admissible à son époux ou conjoint de fait. Le supplément de revenu garanti. Une personne âgée qui reçoit le supplément de revenu garanti ou des allocations en vertu du programme de la sécurité de la vieillesse peut renouveler ses prestations en envoyant sa déclaration de revenus à temps, par exemple. Le REEI, autrement dit le régime enregistré d'épargne invalidité. Les cotisations à un REEI aident les familles à mettre de l'argent de côté pour assurer la sécurité financière d'une personne qui a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les cotisations à un REEI, donc un REEI, ne sont pas déductibles d'impôts et peuvent être faites jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Le crédit pour la taxe sur les produits et services, une taxe de vente harmonisée, ce crédit non imposable versé tous les 3 mois qui aide à récupérer une partie ou la totalité de la TPS ou de la TVH qu'un client paie. Ne pas oublier, surtout, pour recevoir ce crédit, vous devez remplir une déclaration de revenus et de prestations à chaque année, même si vous n'avez aucun revenu durant l'année. Les frais médicaux maintenant. Vous savez que vous pouvez demander le remboursement des frais médicaux admissibles payés par vous-même, votre conjoint de fait, votre époux ou vos enfants ou même les enfants du conjoint nés en 1999 ou après. Le montant en raison de l'âge. Un client âgé de 65 ans ou plus, donc vous, si vous êtes âgé de 65 ans ou plus au 31 décembre 2016 et que votre revenu net était inférieur à 83 427 $, bien, savez-vous que vous pouvez demander jusqu'à 7 125 $. Autre chose, le montant pour revenu de pension. Un client peut demander jusqu'à 2 000 $ s'il a déclaré des revenus de pension de retraite ou des revenus de rente admissibles dans sa déclaration. Et puis, montant pour personnes handicapées. Si un client, donc une personne âgée, son époux ou son conjoint de fait ou une personne à sa charge ont une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales et remplissent certaines conditions, le crédit d'impôt pour personnes handicapées pourrait s'appliquer. Comment savoir si vous êtes admissible? Eh bien, vous devez remplir un formulaire qui s'appelle le T2201, un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Puis ensuite, vous demandez à un professionnel de la santé de l'attester. Les Canadiens qui demandent le crédit peuvent produire leur déclaration en ligne, peu importe s'ils ont envoyé ou non le formulaire à l'ARC pour cette année d'imposition. Savez-vous aussi, et ça n'oubliez pas, que beaucoup d'aînés donc prennent le transport en commun. Alors, une personne âgée, vous peut-être, vous pourriez demander le remboursement des frais payés pour 2016 relativement au laissez-passer mensuel ou annuel de transport en commun pour vos déplacements au Canada. Le saviez-vous tout ça? Peut-être pas. Informez-vous auprès d'un professionnel des impôts, peut-être un comptable si vous en avez un autour de vous. Pourquoi ne pas profiter de tout cela puisque ça existe? Alors, la bonne nouvelle de ce début d'année est officielle. Vous pouvez désormais faire des paiements par carte si vous êtes inscrit au RAM pour vos cotisations, le paiement des activités également, mais aussi pour vos dons. Ça peut se faire au comptoir par carte de crédit ou de débit ou simplement par téléphone, par carte de crédit. Le montant minimum est de 10 $. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec Mélanie Vanel. Alors, je vous laisse son numéro, le numéro du RAM que vous connaissez sans doute dans le 514, le 277-4401 au poste 111, 514-277-4401, poste 111. Le centre de réhabilitation AVC s'adresse aux personnes ayant été victimes d'un accident vasculaire cérébral et aux aidants naturels concernés. Ils sont invités les mercredis après-midi de 9h30 à 15h30 à la salle Circé du complexe Saint-Laurent, 500 rue Saint-Laurent à La Prairie, où un groupe de bénévoles est sur place pour fraterniser, échanger et participer à diverses activités. Voilà, c'était les Paractualités du 25 janvier 2017, présentées par Clotilde Seille. Merci à toute mon équipe et merci à vous. Bonne fin de journée et à demain, 11h30.